La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, on revient sur le budget fédéral concernant la hausse des impôts sur le gain en capital et tout indique que Québec va annoncer dès demain là, l'alignement parfait là, entre les deux paliers de gouvernement. Alors, c'est le moment de faire une certaine réflexion fiscale.
Oui, premièrement, à Québec, est-ce que la province va suivre? Je te dis les trois arguments qui vont sortir. Un, on a toujours suivi le fédéral. Là, tout d'un coup, on est moins nationaliste qu'on était. Deuxièmement, on va dire que ça simplifie le système fiscal d'être la même chose qu'au fédéral. Et troisièmement, la raison qu'on ne dira pas, c'est « Hey, on a un déficit structurel qui traîne, puis on cherchait des solutions, puis là, Justin Trudeau vient de nous en donner une. » Et donc, on va y aller pour ça. Maintenant, Paul, depuis deux jours, je te parle du budget avec beaucoup d'excitation, et j'ai remarqué que les autres médias se sont réveillés un peu sur l'impact sur le commun des mortels, hein, sur la vente d'immeubles, sur la vente de placements. Et là, hier...
L'exemple qui revient beaucoup, c'est celui que tu donnais hier matin, là. C'est-à-dire un couple, par exemple, qui est propriétaire d'un, je sais pas, un 6 logements, puis que c'est leur fonds de pension, dans le fond, là.
Oui, et il y a un élément qu'il faut vraiment souligner. Disons, là, que je suis un spéculateur. J'achète des actions d'Nvidia. Je fais un très gros profit en dedans d'un an. Le gouvernement libéral pourrait dire, t'as fait un gigantesque profit, t'as dépassé 250 000, ou tu détenais ça dans un ink. Donc, on va t'imposer davantage. Puis là, dire, ben oui, j'ai fait un gain spéculatif cette année, ça va. Mais quand t'achètes un immeuble sur 20-30 ans, il y a une façon ou il y a une patente que personne considère. C'est un mot qui est bien plein mode, c'est l'inflation. Parce que dans le fond, si mon immeuble passe de 200 000 à 1 million en 30 ans, c'est beaucoup à cause de l'inflation. Et donc, ce que Mme Freeland vient de faire, pour certaines personnes, c'est d'imposer l'inflation sur 30 ans. C'est ça qu'on vient faire. Parce que la personne que son immeuble est à la juste valeur marchande en 1987, il est encore à juste valeur marchande aujourd'hui. Et là-dedans, il y a beaucoup de... Faut pas oublier qu'un immeuble, c'est pas passif. Hein. Tu travailles un peu dedans, tu l'entretiens, tu paies des taxes, tu fais des choses. Et donc, c'est plus pénalisant pour les gens qui ont des gains à long terme que pour des gains spéculatifs qui disent ben, « Je l'ai fait en dedans d'un an, mon gain, c'est normal que je paie de l'impôt sur mon revenu annuel. » Et alors ça, là, ça c'est l'angle que dans la tête du gouvernement, faut réfléchir. Maintenant, j'ai compris de dire comment on peut pas mettre en place un impôt sur l'héritage, ça va faire chialer tout le monde. À la place, on va mettre en place un impôt sur les gros gains. Et qui fait des gros gains? Des gens qui ont beaucoup de capital et d'argent. Qui a beaucoup d'argent? Des gens qui ont eu une vie avant, pas une vie après. Et donc, en faisant ça, effectivement, tu t'imposes plus les personnes de grande fortune et plus âgés que les jeunes. Et de ce côté-là, c'est une façon de passer la POC à la prochaine génération, parce que là, on a un grand gain latent d'héritage là, qui traîne. Et ça, c'est une façon de nettoyer tranquillement. Écoute, ça se pourrait que le gouvernement fédéral continue à augmenter l'inclusion du taux de gain en capital sur les prochaines élections. Là, on a fait 66 %, mais rien qui t'empêche d'aller plus loin après. Ce n'est qu'un premier pas dans la direction, je dirais pas la bonne ou la mauvaise. Et donc, quand on se parle aujourd'hui, moi, j'ai un cas matin qui frappe fort. Il y a des investisseurs immobiliers ou des gens qui se mettent ensemble pour acheter de l'immobilier, Paul. Puis des fois, ils créent un INC, tu sais, une entreprise pour dire « Tous nos immeubles vont être dans le INC. »
OK.
Puis un moment donné, Bill Bourneau est arrivé puis il a dit « Hey, les revenus passifs dans les INC, dont les revenus de loyer, on va peut-être imposer ça davantage si vous dépassez un certain seuil. » Là, c'est devenu moins intéressant. Puis là, c'est rendu que le premier dollar de gain en capital est imposable dans le INC. Donc, je te donne un exemple classique. T'as un professionnel travailleur autonome incorporé. Il a sa maison, son condo ou son plex où il habite. Mais il décide d'en acheter un autre. Puis il fait investir dans le INC au lieu de personnellement. C'est un choix. C'est une question de qui investit, la compagnie ou soi. Mais là, hier, là, puis avant-hier, tout vient de changer. Là. Parce que là, si t'as acheté un immeuble il y a une couple d'années dans un INC, puis qu'il y a un gain de valeur important, là, ton INC ne se fait pas imposer à partir de 250 000 de gains davantage à partir du 25 juin. C'est à partir du premier dollar. Et donc, c'est majeur. Là, ce qu'ils savent très bien au fédéral, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à transférer des immeubles, des INC au personnel, réhypothéquer tout ça, utiliser l'effet de levier, puis transférer. Donc, ça va coûter des frais de notaire, peut-être certains frais de transaction. Mais tu vois qu'il y a des affaires qui arrivent. Donc hier, il y a du monde qui se levait hier en prenant leur café, puis regarder le résultat du budget, puis tout ça, puis là, il y a des gens qui conseillent du monde qui disent « Ah non, on est déjà dans la fin d'année financière des compagnies, on est déjà dans les impôts, puis là, le gouvernement fait en sorte que notre téléphone va se mettre à sonner parce que tous nos clients vont se mettre à nous appeler pour dire « Qu'est-ce que je fais avec mon gain capital? Est-ce que je transfère mon immeuble de structure? Est-ce que je vends des placements? » Parce que Paul, si t'as 80 aujourd'hui, là, puis que t'as des gros gains en capital que tu voulais transférer à tes enfants.
Mais c'est sûr, tu sais, mais quand je reviens à l'exemple d'un couple qui est propriétaire d'un quatre logements ou deux logements, oui, tout ça, tu sais, avec la flambée des prix, là, le gain en capital, c'est vrai que sur 15 ans, là, il va être spectaculaire, là.
Une autre affaire. Est-ce que vous êtes un couple en santé? Là, je vais te faire rire un peu. Je parle pas de l'amour dans le couple, évidemment, mais en santé. Parce que chaque membre du couple a droit à 250 000 à l'ancien taux d'inclusion. Donc, quand t'es deux, t'as 500 000 avec l'ancien taux d'inclusion, donc le taux d'impôt le moins élevé par rapport au nouveau taux qu'il va avoir le 25 juin, sur ce qui suit 250 000. Mais si ton conjoint, ta conjointe décède subitement, le 250 000, on fait quoi avec, là? Est-ce qu'on le roule dans le coût de l'immeuble? On le perd? On le dispose en partie avant si t'es malade? Il y a des stratégies de mortalité à mettre en place à cause de cette nouvelle règle. En somme, le système fiscal canadien, Paul, est de plus en plus complexe. On a besoin de plus en plus de comptables, mais on a de la misère à suffire à la demande. Fait qu'on ajoute une couche de complexité. Tu sais que si tu retournes en 1972, la loi de l'impôt était très, très, très mince. Maintenant, on ajoute des exceptions.
Mais t'as un budget de 400 quelques pages, là, fait que déjà là, ça te donne une idée.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Hey, en terminant, parce oui, que hier, M. Legault a parlé de logement, puis il a dit, entre autres, que la baisse des impôts va aider les acheteurs de maisons. Tu as 30 secondes de me dire si oui ou non.
Non. En somme, la baisse d'impôts a touché les paliers en bas de 100 000 $ environ, le 103 000. Donc, tout le monde qui fait de l'argent, qui paye un peu d'impôts, a eu une baisse d'impôts. Donc, dans le marché, tout le monde l'a eu. Mais plus tu es riche, Paul, mettons que tu dépasses 104 000 de revenus, là. Ça veut dire que toi, tes REER vont être déductibles après ça entre 41 et 53,31 mais que la baisse d'impôt, tu ne seras pas affecté. Je te mets ça en français. Quand tu as une baisse d'impôt, ça veut aussi dire que tu as une baisse de rabais fiscal sur les avantages fiscaux comme le CELIAP et le REER. Donc, ça avantage juste les gens qui ont des très gros revenus en haut des baisses d'impôt, qui, eux, vont avoir tout de même les grosses déductions REER et CELIAP, mais qui vont profiter des baisses d'impôts des premiers paliers. En somme, c'est une belle phrase, mais je ne pense pas que ça va changer la capacité du monde à s'acheter une maison dans les premières années, parce que les gens qui s'achètent des maisons sont pas dans les plus grands revenus. Donc, c'est une belle phrase politique, mais il y a une chose, Paul, qui va aider le monde à avoir des maisons, c'est quoi? Plus de maisons qui forcent les vendeurs à baisser leur prix ou à arrêter de les monter.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut.
C'est 23.